16h-18h, Carl Zéro sur Europe 1.
Oh, mais c'est pas vrai.
Ça fait quand même une surprise, non?
Si vous n'avez pas eu encore le loisir d'écouter Carl Zéro en lieu et place de Laurence Boccolini cette semaine de 16h à 17h, eh bien c'est le moment de découvrir en rediffusion son vrai faux quiz autour de l'actualité, de la politique et de l'air du temps.
Ils ne se connaissent pas et pourtant je le vois. Ils s'adorent déjà. En vrai, tonton flingueur, sans même se parler, ils se sont scrutés et ils ont senti qu'ils étaient du même poil, du même monde, de la même espèce de grand fauve que rien n'arrête. J'ai nommé notre gigantesque pâtre des montagnes, Jean Lassalle. Et l'immense et prolifique romancier que le monde entier nous ravit et nous envie, Bernard Werber. Permettez-moi de vous présenter Ganesh et Anissa. Ils nous viennent de deux pays gorgés de soleil et nous accompagneront tout au long de l'émission. Et s'ils sont bons, ils ne repartiront pas vers leur pays gorgé de soleil. Et donc vous allez être bientôt soumis, tambour battant, au feu roulant des questions politico-sociétales de ce quiz en six manches. Et le gagnant aura le bonheur, que dis-je, la joie ineffable bien sûr, de repartir avec un cadeau somptuaire de derrière les fagots. Mais vous le savez, ou plutôt vous l'ignorez, puisque chers auditeurs, chères auditrices, c'est la première du genre, ce quiz citoyen a avant tout, et là je suis sérieux, pour but de réduire la fracture sociale. Dès lors, vous allez tirer dans ce magnifique petit chapeau transparent, car l'un de vous deux représentera la France d'en haut et l'autre la France d'en bas. Anissa.
Alors, Jean Lassalle sera aujourd'hui la France d'en haut.
Eh oui Jean, ça devait arriver un jour.
Imagine Bernard Werber, la France d'en bas.
Imagine Jean,
ça me va très bien.
Tu as été élu président de la République, tu serais de la France d'en haut. Alors, à la clé pour toi, un week-end de 5 jours dans la villa de mon ami Ziad Takieddine. Tu profiteras d'une piscine olympique chauffée, d'une somptueuse villa de 600 mètres carrés, le tout payé par la Libye et noté 5 étoiles par Jean-François Copé sur TripAdvisor. Quant à toi, Bernard, tu représentes la France d'en bas. Et comme l'eau, eh bien, tu gagnes un mois dans la cellule japonaise de Carlos Ghosn. Une petite pièce de 3 mètres carrés équipée d'une petite fenêtre de 3 cm et d'un futon de 1 cm d'épaisseur. Comme ça, tu auras l'impression d'être dans une Twingo.
Et Bernard Werber, Carl, est aussi avec nous aujourd'hui pour deux livres. L'Encyclopédie du savoir relatif et absolu chez Albin Michel. C'est un véritable cabinet de curiosité littéraire et mythologique. Et La boîte de Pandore, ça c'est son roman paru chez Albin Michel également.
Je vous propose pour commencer d'étudier à la loupe la biographie de Jean Lassalle. Alors évidemment, certains des faits qui vont vous être exposés peuvent être vrais, d'autres peuvent être faux. Et c'est la voix BFM TV interprétée par notre ami Ganesh qui va nous lire les propositions concernant donc Jean Lassalle. Tandis qu'Anissa compte les points bien si sûr. Elle y arrive, parce qu'un jour sur deux, elle n'y arrive pas.
Jean Lassalle est né le 3 mai 1955 dans un petit village de la vallée d'Aspe dont il a été le maire. Ces magnifiques montagnes des Pyrénées qu'il n'a jamais quittées, contrairement à Bayrou, dont la réintroduction a échoué.
C'est vrai ou faux ?
Je ne sais pas. À vrai dire,
la première partie est vraie.
On ne se parle plus depuis 6 ans. On est resté dans une messe au Pays Basque pendant 1h15 sans se dire un mot. Oui. Et après, on partait communier tous les deux. Et moi, je me suis dit, il faut quand même que je fasse un signe au bon Dieu. J'ai dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à tous. Il y avait le préfet, ils se sont tous demandés. Non, au départ, c'était bien. J'étais heureux d'être à ses côtés. Je crois que nous avons formé un formidable tandem. Depuis quelque temps, ça n'allait pas. Et quand ça va pas, il ne faut pas faire semblant.
Donc ça veut dire que tu as mis quand même une paire d'années à comprendre que c'était une girouette.
Non, pas une paire d'années, 29 ans ou 30.
Oui, donc tu comprends.
Une girouette,
tu comprends doucement, Jean, quand même. Hein.
Ah bon, oui. Mais c'est la fidélité aussi à même temps.
Ganesh.
Fait peu connu, dans sa jeunesse, Jean Lassalle fut pris pour modèle vivant par une célèbre marque de charcuterie industrielle. Elle a calqué à l'identique un de ses membres particulièrement charnu, et c'est ainsi que le bâton de berger est né.
Jean.
Il n'y a pas grand-chose à dire.
Mais... J'ai eu Pascal, ton épouse en ligne, elle m'a confirmé, moi.
Non, mais je pense que... j'aime le saucisson. Avec mon verre de rouge, c'est exceptionnel.
Ganesh.
Lors de la dernière campagne présidentielle de 2017, il s'est ainsi adressé aux électeurs. « J'ai besoin de vous, sinon ce sont toujours les mêmes qui vont gagner. »
Vrai ou faux?
Oui, et j'avais ajouté même un peu
plus. On va l'écouter.
Oui. J'ai besoin de vous, parce que sinon c'est les autres couillons qui vont gagner. Ils vont vous baiser une fois de plus.
Est-ce qu'on parle comme ça en politique?
C'est relativement différent quand même.
Oui, mais en même temps, vous le voyez bien avec les gilets jaunes aujourd'hui, dans les ronds-points, les Français aspirent à ce qu'on leur parle normalement. C'est-à-dire comment on s'adresse à hauteur d'homme, à hauteur de femme, à des semblables. Et
c'est,
non pas
c'est très
avec
juste.
Un langage dans lequel personne ne comprend rien, et surtout pas celui qui parle.
Voilà, tu as raison. Et je passe maintenant à mon jeune ami tonton flingueur, Bernard Werber, et c'est Ganesh qui nous raconte quelques épisodes saillants de sa vie.
Bernard Werber est né le 18 septembre 1961 à Toulouse. À 8 ans, c'est sur le transistor de sa grand-mère qu'il entend pour la première fois « La cri-crane et la fourmi », des inoubliables Pitéric, une chanson qui va changer sa vie.
C'est magnifique. Je suis heureux que repasse ce tube.
Vous êtes bon pour retrouver des archives inconnues.
Mais bon, enfin, Pitéric. Non, en fait, c'est en rédigeant une rédaction, je crois, sur l'histoire d'une puce qui se balade sur ton corps que tu as...
Oui, j'avais 8 ans et le professeur m'a dit, ça m'a fait beaucoup rire, mais la première phrase ne fonctionne pas, tu le comprendras plus tard. Et la première phrase, c'était, je suis une puce née d'une mère pucelle et d'un père puceau. Et en effet, j'ai compris plus tard.
D'accord. Son premier roman, Les Fourmis, sorti en 2001, a failli être adopté au cinéma en France avec Élie et Dieudonné dans les rôles-titres. Mais ça ne s'est pas fait parce que Dieudonné voulait impérativement y incarner un bourdon.
Qu'est-ce que c'est que cette histoire de bourdon?
Non, il y a eu des projets de films et c'est jamais arrivé à se monter. Et par contre, les Américains l'ont repris pour faire Hant. Oui, voilà. C'est-à-dire que, en fait, c'était les Canal qui avaient récupéré les droits. Ils sont allés aux États-Unis, ils l'ont présenté à Disney. Disney a dit c'est une super idée, on le fait, mais on n'achète pas les droits. Donc, et c'était Katzenberg qui est parti former le DreamWorks. Et donc, c'est DreamWorks qui a sorti Hant. Et après, Disney a fait mille et une pattes et ils se sont fait un procès entre eux pour s'être piqué l'idée. Mais moi, quand j'ai voulu me renseigner pour savoir si on pouvait faire savoir ses droits, on m'a dit, tant contre les Américains, on n'a aucune chance, laisse tomber.
Le bilan de cette première manche, Anissa.
Eh bien, toute mauvaise foi, il y a un point partout pour Jean Lassalle et la France d'en haut et Bernard Werber qui représente la France d'en bas.
Je l'avais trouvé meilleur que moi.
Eh bien pourtant,
moi j'ai trouvé
un point
lui
chacun.
Meilleur que moi.
Voilà pourquoi vous êtes à égalité.
En tout cas, on a entendu à la fois le son de X-Files et celui de la cloche du village. On les réécoute. Ça vous définit tous les deux. Même si la taxe carbone a été abandonnée en France, l'année 2019 qui s'ouvre sera évidemment l'année de la transition écologique. Alors que faites-vous, mes chers tontons flingueurs, pour la planète? Peut-être pas grand-chose pour l'instant. Voici un quiz qui vous permettra de savoir ce qui pollue ou pas. Deux propositions et vous répondez, d'après vous, ce qui pollue le plus. Et c'est Anissa qui commence avec la première proposition.
Qu'est-ce qui pollue le plus? Manger un burger ou publier un message sur les réseaux sociaux?
Publier un message sur les réseaux sociaux.
Moi, je pense le burger.
Eh bien, tu as gagné. C'est effectivement un point pour Bernard Werber.
Parce que les vaches...
C'est comme faire 230 km en camion manger un burger. Alors, publier un message sur Twitter pollue également, mais moins. C'est l'équivalent d'une ampoule allumée pendant une heure. Tout ça pour rédiger une connerie.
En plus.
Non, mais la viande, ça pollue énormément. La consommation de viande, c'est une des manières de sauver la planète, consisterait à devenir végétarien.
En même temps, manger des burgers et faire des tweets, c'est un peu ce que fait Donald Trump toute la journée.
La double pollution.
Ça explique qu'il ne croit pas au réchauffement climatique. Ganesh.
Qu'est-ce qui pollue le plus? Les flatulences des vaches ou celles de notre Gérard Depardieu national après un excellent repas?
C'est lamentable.
Je pense qu'il y a un équilibre des deux.
Jean, tu as une idée? Tu répondrais quoi? Venant de la campagne, merde Jean.
Depardieu. Non, comment il s'appelle?
Ça dépend de la taille de la vache aussi.
Oui, oui, oui.
Eh bien non, vous avez perdu tous les deux. Ce sont les flatulences des vaches qui émettent autant de gaz à effet de serre que 15 millions de voitures. 35 vaches, les amis. Ça équivaut à 400 000 km de trajet en voiture. En revanche, je n'ai aucun chiffre officiel concernant Gérard Depardieu. Mais il pollue. Il a été établi qu'il pollue beaucoup car il voyage beaucoup. Et à chaque fois qu'il débarque dans un pays, il consomme toutes les ressources et ensuite il passe à un autre pays. Il a fait la Belgique, la Russie et en ce moment, il est en train d'assécher la Turquie, littéralement. Ce qui est scandaleux. Anissa, proposition suivante.
Qui pollue le plus? Le 4x4 de collection de Nicolas Hulot, qu'il a déclaré dans son patrimoine, ou les pailles en plastique qui pullulent dans nos océans?
Les pailles de Nicolas pailles, Hulot. Hein.
Non, non. Nicolas Hulot a arrêté la coque il y a bien longtemps.
Mais je crois qu'il y a une loi qui est passée pour interdire les objets qu'on jette, qu'on utilise qu'une seule fois. Donc ça devrait peut-être...
À quoi penses-tu? Les préservatifs, par exemple? On n'a plus le droit de les jeter, c'est formidable. Mais non,
c'est bien.
C'est les trucs pour les oreilles qu'on n'a plus le droit de jeter.
Tous les trucs en plastique.
Les trucs en plastique, on ne peut plus les jeter, très bien. La bonne réponse, c'était le 4x4 de Nicolas Hulot.
Eh oui,
il fait plus de 70 litres au 100 et il est obligé d'aller faire le plein au Qatar directement pour que la voiture fonctionne. C'est absolument... À chaque fois qu'il démarre la bagnole, un éléphant d'Asie meurt. Anissa, le bilan.
Eh bien, il y a encore un match nul de partout entre Jean Lassalle et Bernard Werber.
On réécoute leurs deux sons alors.
Ça fait plaisir de venir pour s'instruire. Ça, on ne le savait pas.
C'est un peu comme dans ton bouquin. Attention Jean, une question sérieuse. Qu'est-ce qui est le plus important aujourd'hui pour toi, de sauver notre planète ou d'aider les gens à pouvoir boucler leur fin de mois? C'est la question.
Boucler leur fin de mois.
C'est beaucoup plus important.
Oui, oui, oui. Il faut commencer par le commencement.
Oui.
Parce qu'ils vont m'aider après à sauver la planète. Tandis qu'ils sont tous morts, je vais être tout seul pour sauver la planète.
Oui, mais les deux, ça peut arriver. Ils finiront par boucler les fins de mois et en mourant en même temps.
Oui, non, mais en fait, moi, je préfère qu'ils soient vivants.
Oui,
c'est mieux. Ouais.
Bernard, nos amis les fourmis, sont-elles plus respectueuses de l'environnement que nos amis les humains?
Oui, parce qu'elles aèrent le sol. Non seulement ça, les fourmis participent à répandre partout toutes les graines et à faire vivre le sol. Si vous enlevez les fourmis, l'humanité crèverait assez rapidement. C'est-à-dire les fourmis, comme les abeilles, participent à notre survie.
Mais en cas de réchauffement massif, est-ce que les fourmis
elles
survivent?
Elles s'adaptent au désert, aux températures extrêmes dans le désert, tout comme aux températures très très froides en Antarctique. Elles sont adaptées à tous les milieux.
Ça veut dire, Bernard, que quand on sera tous morts, tu seras l'empereur du monde, puisqu'il n'y aura plus que des fourmis.
Non, je mourrai probablement avec tout le monde, mais c'est vrai que je pense que c'est notre génération qui est en train de décider si nos enfants vont avoir une planète viable.
Europe 1.
Au soir du 31 décembre, pour la deuxième fois de son quinquennat, et peut-être la dernière, au train où ça va, Emmanuel Macron a eu la bonne idée de nous présenter ses traditionnels vœux depuis l'Élysée.
Mes chers compatriotes,
je vous propose de revenir de façon ludique sur cet exercice de style présidentiel, et ça commence par le qui cause.
Je cause des pieds sur le mur parce que ça vaut mieux que causer de pommes de terre.
Vous allez entendre 5 archives sonores de vœux présidentiels. Attention, ils ont été légèrement trafiqués, Jean. Vous n'avez droit qu'à une seule réponse, on écoute le premier.
Mes chers compatriotes, les moments où un peuple se rassemble...
J'ai une idée.
Vas-y,
Mitterrand.
Perdu.
Chirac.
Même
gagné.
Bravo.
Deuxième extrait.
Françaises, Français de métropole et d'outre-mer, je vous souhaite une bonne année.
Ben là, je dirais Mitterrand.
Dans votre nom,
gagné. Bernard remonte son léger retard, c'était Mitterrand. On dirait une nounours à chaque fois. Attention, troisième extrait.
Je souhaite que le spectacle de nos
reines
toujours présent.
De Gaulle.
Tant de foyers.
T'as droit qu'à une réponse, c'est pas une
sans-abri.
De Gaulle.
Perdu.
Les égoïsmes aveugles trop nombreux.
Avec un accent comme ça, Jean, tu devrais trouver tout de suite.
Rouler les airs.
Mais putain, et pas d'accent. Accent du sud-ouest, tu l'as pas reconnu, Jean?
Pas du clos, il n'a pas été président. Marché non plus.
Plus loin. Quand tu es né, c'était.
La 4ème République.
Non.
Vincent.
Auriol.
Ouais,
bah, le point n'est pas pour toi, c'est moi qui te l'ai soufflé. 4ème extrait.
Mes chers compatriotes, en ce 31 décembre, au terme d'une année si pleine pour notre pays, c'est avec reconnaissance pour la confiance que vous m'avez témoignée et conscient des devoirs qu'elle m'impose que je m'adresse à vous. Ce soir, j'ai une pensée pour chacun d'entre vous.
C'est Giscard, ça, non ?
Et non.
Non.
Pompidou.
Ben non.
Hollande.
Mais c'est plus récent que ça. C'est quelqu'un d'un peu agité.
Sarkozy. Sarkozy.
Voilà.
Ah, oui. Vous accélérez la voix un peu là, non ?
Ah oui, elles sont changées.
On a dit qu'elles étaient trafiquées, les voix.
Ah, d'accord, j'ai pas compris.
Elles ont pas des voix
comme
comment, ça.
Comment, Jean, tu n'avais pas compris ?
Non.
Mais c'est le cinquième extrait que tu viens d'entendre et tu n'as pas compris. Attention, Jean, concentre-toi. Un nouvel extrait et la voix est trafiquée. Ah bon. Écoute.
Pour la France, l'année qui finit a été en somme favorable. Par contraste, avec d'autres temps, qui furent cruels.
C'est De Gaulle.
Et c'est Bernard Werber qui l'a dit en premier.
Ah, il l'a dit en premier. Ouais. Bon, alors égalité. Voilà. Et Ganesh disait, c'est Lynn Renault. Mais non, c'est pas Lynn Renault. Il n'a jamais été président. Le bilan, Anissa.
Eh bien, nous sommes encore sur une égalité. C'est très serré entre Jean Lassalle et Bernard Werber. Il y a 4 partout.
On entend les deux sons. Et une petite question quand même un peu plus sérieuse. Est-ce que les vœux présidentiels, ça sert encore à quelque chose ? À quoi sert de promettre des trucs qu'on tient jamais, Jean ?
Écoutez, ça devrait être un grand moment de la nation. Et malheureusement, c'est un moment qui continue à être regardé, mais avec un côté, comme vous l'avez dit, malheureusement pas tellement pris au sérieux. On regarde comme quelque chose qui a eu de l'importance, qui en aura de nouveau un jour, mais qui, pour l'instant, est plutôt guignol.
Ben, c'est pour ça que ça sert uniquement à faire des jeux des années plus tard sur Europe 1. C'est triste à dire.
J'ai l'impression que la pire chose que puisse faire un président, c'est tenir ses promesses. Dès qu'il tient ses promesses, tout le monde lui tombe dessus. Donc, il ferait mieux de dire des promesses et puis ne pas les tenir.
Généralement, c'est ce qu'ils font. Et là, tu penses à Macron. Tu trouves que Macron a trop dit ce qu'il ferait.
J'ai l'impression que certains présidents, surtout ceux qui ont fait 2 septennats, comme Mitterrand ou Chirac, au 2e septennat, ils ont compris. Il faut faire les promesses, mais surtout pas les tenir. Et comme ça, ils restent populaires jusqu'au bout.
Tu as enfin compris ce que c'était la politique, Bernard.
Mais je pense que tout changera avec mon élection en 2022.
Bien sûr, Jean.
De l'actu, des quiz, des anecdotes et beaucoup de bonne humeur. C'est le programme tous les jours et même le week-end à partir de 16h sur Europe 1 avec Carl Zéro et ses tontons flingueurs. Il est 16h30, quiz, actu et bonne humeur jusqu'à 18h sur Europe 1 avec Carl Zéro et ses tontons flingueurs. C'est le nouveau rendez-vous d'Europe 1 qui a démarré cette semaine de 16h à 17h. Rediffusion le week-end et on continue à jouer avec l'info et avec Jean Lassalle et Bernard Werber.
On va continuer avec un autre quiz de rapidité, Jean.
Oula, je vais être battu.
Mais non.
Ganesh, Anissa, vous êtes prêts pour les propositions ?
C'est parti. Qui a présenté les vœux présidentiels les plus longs ?
Alors, toute présidence convient...
Avant la 5e République aussi ?
Aussi.
De Gaulle a peut-être pu être un peu long une fois.
C'est gagné, c'est absolument. Ça. Charles de Gaulle en 62, 18 minutes de vœux. Ganesh.
Qui a présenté les vœux présidentiels les plus courts ?
Ben Sarko, je dirais.
Non.
Hollande, il n'avait pas grand-chose à dire.
Non. Oui, mais il parlait pour ne rien dire.
C'est à balles réelles.
Giscard.
Vous êtes très très mauvais, les amis.
Pompidou.
Oui,
oui.
On va dire au quatrième, non. 4 minutes en 1970. Il avait autre chose à foutre après.
Qui a présenté les premiers vœux hors de l'Élysée ?
Ça sera toi en 2022, bien sûr, mais quelqu'un l'a fait avant. C'était...
Pas un président de la 5e.
Si, si.
Ah oui ?
Un président de la 5e.
Oui. Je peux même vous dire, il était à Strasbourg.
C'est Mitterrand.
Non, Anissa, tu as filé la réponse, je t'ai vu. Alors Anissa nous quitte, elle sort, allez, elle sort.
Il m'a prêté son stylo, je lui dois une réponse.
Oui, oh, c'était pas un stylo qui t'a prêté.
Non, mais elle m'a pas dit ça.
Bon, alors on annule la question. Question suivante.
Qui a présenté les vœux avec Madame son épouse ?
Giscard d'Estaing.
Giscard.
Et c'est Bernard qui a répondu. Bravo, c'était effectivement, et chacun se souvient.
Et qu'est-ce que c'était emmerdé ?
Anémone.
Il y avait le feu de bois et la bûche à rouler. Chacun s'en souvient. Non, pas la bûche que tu crois. Next.
Qui a présenté les premiers vœux en couleur ?
Giscard.
Giscard, oui.
Aucun des deux.
Pompidou.
Aucun des deux,
de
toujours
Gaulle.
Pas. De Gaulle, oui, mais en quelle année ?
Eh bien, en 1962 ou 3. Certainement.
Mais non, il n'y avait pas la télé en couleur en 62 ou en 63. 68, à part dans les Pyrénées.
66.
68. En 67. Ouais. Et c'est une bonne réponse.
C'est
déjà.
L'année où Pinjot a gagné le Tour de France aussi.
Et c'était en couleur.
Oui.
Le maillot jaune était bien jaune, Jean, tu confirmes.
Absolument.
Merci beaucoup. Next.
Qui a présenté les premiers vœux sous-titrés?
Ça, c'est un original, c'est Sarkozy.
Mitterrand.
Mitterrand.
Mitterrand, bonne réponse. Et pour quelle raison?
Parce qu'il y avait une très grosse prise de conscience sur les non-voyants.
Les handicapés.
Et c'est les handicapés, et c'était très bien.
Sous-titré pour les non-voyants.
Alors, pas pour les non-voyants, pour les malentendants.
Pour les malentendants, je pense.
Pourquoi j'ai dit ça?
Vous avez dit les non-voyants.
Les non-voyants.
Oh, excusez-moi, les non-voyants. Alors,
les non-voyants, ils écoutaient le record.
Jean a présenté ses excuses aux non-voyants. On peut continuer le jeu. Next.
Qui a présenté les premiers vœux sur Internet?
Sarko.
Bonne réponse de Bernard Werber.
De toute façon, on a en gros une chance sur cinq, hein, vu que c'est la 5e République. On joue entre Sarko, Mitterrand,
oui,
Giscard.
De Gaulle sur Internet, ça aurait été difficile.
Voilà. Et la dernière, les enfants, on y va.
Qui a présenté les premiers vœux avec un drapeau derrière?
Giscard.
Malheureusement, c'est pas vrai.
Mitterrand.
Oui, en quelle année?
À 1980. 1982.
Bien,
1982.
Oui, bien, 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 bien.
Bravo.
Très grande forme de Jean Lassalle.
Il est quand même temps que je le devienne.
Puis, eh bien voilà, justement, c'est l'occasion. On envoie le jingle vœux présidentiel. C'est à toi, tu lis ta déclaration.
Mes chers compatriotes, à l'aube de l'année 2019, pour les jeunes, c'est le même deal. Pour celui qui traîne, comme pour celui qui file tout droit, de toute façon, il n'y a plus de boulot. La boucle est bouclée, le système à la tête sous l'eau. Alors, je n'ai pas de conseils à vous donner, mais si tu veux pas qu'il glisse, je n'ai qu'un vœu à formuler pour 2019. Ne laisse pas traîner ton fils. Vive la République et vive la France.
Ouais. On vote pour lui. Hein.
Jingle présidentiel, les vœux de Bernard Werber.
Mes chers compatriotes, faut pas déconner. Il faut laisser derrière nous nos peines, nos haches de guerre, nos problèmes, se libérer de nos chaînes. Lâchez le lion dans l'arène, car il suffira d'une étincelle, d'un rien, d'un geste. Il suffira d'une étincelle, d'un mot d'amour pour, en 2019, allumer le feu et faire danser les diables et les dieux. Bonne année, vive la République et vive la France!
Alors là, Ganesh, Anissa, je ne sais pas comment on peut les départager. J'ai envie de voter pour les deux, moi.
C'est les meilleurs vœux depuis la fin de la monarchie.
Et maintenant, le quiz du C'est fatal, on va tous crever.
Ah.
Dans combien d'années le soleil deviendra une étoile géante rouge, réduisant en cendres toutes les promesses d'Emmanuel Macron et tous les espoirs d'Europe 1 de reconquérir des auditeurs?
Réponse A, juste après la pub.
Réponse B, d'ici une dizaine d'années.
Réponse C, dans 1 milliard d'années.
Réponse D, dans 5,5 milliards d'années.
Bernard.
Moi, je dirais 1 milliard d'années. On n'est pas si loin que ça.
Jean.
5 milliards et demi d'années.
Gagné, Jean.
Ouais, mais c'est...
Jean a toujours su voir loin. C'est l'avantage des mecs des montagnes, ils voient loin. Deuxième proposition, combien de délicieux succulents poulets sont surconsommés chaque année dans le monde?
Réponse A, 129.
Réponse B, 65 millions.
Réponse C, 86 milliards.
Réponse D, beaucoup trop.
86 millions.
Non, 86 milliards. Dans le monde?
Dans le monde,
dans le monde.
Ah,
oui,
chaque année.
86 milliards, oui.
Vous avez bon tous les deux, 86 milliards. Et à propos de poulets, en juillet dernier, qu'a retrouvé un couple dans ses nuggets?
A, du vrai poulet, et ils ont été surpris.
Réponse B, du plastique.
Réponse C, le programme électoral du Parti Socialiste.
Réponse D, un doigt du journaliste saoudien Jamal Khashoggi.
Attendez.
Du vrai poulet, du plastique, un programme électoral, du PS ou un doigt de journaliste.
Du plastique.
Du plastique, oui.
Bonne réponse de nos deux tontons. Et dans le même ordre d'esprit, avant Noël, qu'est-ce qu'une petite fille a retrouvé dans son calendrier de l'Avent ?
Réponse A, une dent de lait abandonnée par la petite souris.
Réponse B, une petite souris morte.
Réponse C, le dernier livre de Marc Lévy.
Et réponse D, Benoît Hamon.
La souris morte.
Le non, dernier Benoît livre Hamon. De Marc Lévy.
Et c'est une bonne réponse. Il est tout petit ce livre et donc il était caché dans le... Non, en fait c'était une petite souris morte bien sûr, mais là c'est l'égalité parce que ta réponse était marrante.
Attends, Karl.
Ouais.
Je vais quand même dire un truc. Dans une certaine chaîne de fast-food, ils donnent des livres dont certains sont écrits par Marc Lévy aussi.
Sans déconner.
Ouais. Donc on va pas dire la marque, mais c'était presque une vraie bonne réponse en fait.
Eh ben, on vient de perdre la pub sur l'antenne de cette marque de sandwich. Merci. Cinquième proposition. Avec les États-Unis, quel autre pays a refusé de signer l'appel de Paris de la COP21?
Réponse A, la Corse.
Réponse B, le Benelux.
Réponse C, la Russie.
Réponse D, la Syrie.
La Russie.
La Syrie.
La Syrie, bonne réponse de Jean Lassalle. Bravo. C'est vrai qu'avec les émissions de gaz en Syrie, il y en a énormément, donc il risquait pas de le signer. Cet appel de Paris.
Brésil aussi.
Oui, non, mais j'ai pas dit tous ceux qui avaient. Tu vois, il y avait un choix.
D'accord.
Alors, bilan maintenant avec Anissa.
Eh bien, Jean Lassalle prend le large et mène maintenant 13 à 10 face à Bernard Werber.
Bravo, c'est mérité.
La cloche du village de l'Aspe retentit.
Non, il fait semblant de me laisser gagner. Il fait possible.
Non, c'est mérité, si tu connais bien. Non.
C'est bien possible. Alors, le quiz s'appelait c'est clair, on va tous mal finir. Bernard, toi, c'est la SPA qui va avoir raison de toi. Tu vois que je me suis renseigné.
Vas-y.
Qu'est-ce que c'est cette SPA ?
Ah, spondylarthrite ankylosante. Je croyais que tu allais me parler SPA. C'est une maladie que j'ai eue quand j'étais jeune. Ben, c'est juste pas de chance. C'est la première maladie qu'on a trouvée qui est la maladie génétique. C'est Jean Dossé, qui est d'ailleurs toulousain aussi, qui a eu le prix Nobel pour avoir découvert cette maladie. C'est une maladie qui me transforme progressivement en statue. Voilà, c'est-à-dire en... Je me rigidifie toutes mes articulations.
Ah, j'ai eu peur.
Mais il n'en a pas les symptômes.
Non, parce que je fais énormément de sport pour lutter contre ça.
Au moment où tu nous parles, d'où es-tu rigide?
Ça commence par le dos. Non, mais c'est marrant, depuis que j'en ai parlé, il y a plein de gens qui commencent à communiquer dessus, parce que il ne suffit pas d'avoir une maladie, il faut avoir une maladie un peu connue. Et les gens
ont une maladie sympa, en fait. Tu as une maladie sympa.
Oui, mais au début, on n'était pas assez nombreux à l'avoir.
Mais tu prends des médocs ou pas?
Non, en fait, non. Je fais juste du sport et je fais des assouplissements. Mais c'est une maladie, je me suis habitué à vivre avec elle. C'est-à-dire, elle m'oblige à être tout le temps en mouvement. Si je reste trop immobile, je sais que je risque de me rigidifier.
Il faut que je te voie parce que ma sœur, là, justement, et elle souffre terriblement. Mais elle souffre, elle ne pourrait pas participer à une émission. Elle est vraiment toujours en souffrance.
J'ai vu des gens en état de crise, en effet, qui étaient comme bloqués, comme des momies.
Tétanisés.
Voilà. Mais... moi, je pense qu'il y a deux méthodes pour soigner ça. C'est d'abord le mouvement en permanence. Et la deuxième chose, c'est être heureux. Il faut se démerder d'une manière ou d'une autre pour être heureux, parce que ça soigne tout. Et à un moment, dès que j'ai commencé à être écrivain, les crises se sont arrêtées. Okay. Tant que j'étais journaliste, j'avais de plus en plus de crises. Et dès que je suis devenu écrivain, donc c'est une solution, mais je pense, pour toutes les maladies, se démerder comme on peut, mais se débrouiller pour être heureux.
Je la croyais heureuse.
Et ben, voilà.
Je vous propose qu'on retrouve nos amis les tontons flingueurs pour le quiz de la toute première fois. Incroyable, vous applaudissez Jeanne Masse, je rêve. Si j'avais pensé qu'un jour je serais dans une émission que j'anime et on applaudit Jeanne Masse, je me serais flingué. Bien, Jean, est-ce que tu te souviens où tu étais le samedi 14 mai 2005?
Chez moi.
Pas du tout, Jean. Une fois de plus, ton alibi ne tient pas. Tu n'étais pas chez toi. Tu étais à l'Olympia. Écoute.
Je ne pense pas qu'il y aura un autre qui pourra résister à cette force gaouilleuse, tranquille et qui va être déterminée.
Alors, tu étais clairement bourré, tu parlais une langue inconnue. Depuis que tu as appris le français, ça doit être la langue de ton village. Je ne sais pas, c'est quoi, du Corse?
Non, ça c'est du Béarnais, avec l'Académie du Béarn, qui se situe à Pau. Et c'est une très vieille langue, parce qu'avec des voisins comme les Basques, dont je suis aussi le député, oui. il vaut mieux avoir une bonne langue qui tienne la route.
Ah bah ça, elle tient la route, oui. On ne comprend pas un mot. Et tu étais à la télé, tu parlais comme ça.
Oui, c'était le festival de Nadao. Nadao, qui est un merveilleux groupe béarnais, gascon, du sud, occitan, passé ce soir-là pour la première fois, et j'aurais dû m'en souvenir, à l'Olympia, où ils avaient eu un succès considérable.
Merci Jean, je me tourne vers Bernard maintenant. Alors donc, nous sommes le 16 avril 1994, une date qui pour toi a énormément compté. C'est celle de ton dépucelage, bien sûr, mais c'est aussi ceci.
Il fut un temps où, dès le mois d'avril, sur les routes sinueuses,
eh ouais, la drogue,
les caravanes ouais. des cirques ambulants serpentaient mollement de ville en village. Arrivés sur la grande place, les forains, avec dextérité, dressaient leur château en toile. Les gamins, les yeux écarquillés, regardaient la magie s'installer.
On perd du monde, donc je suis obligé de couper.
C'est mon frère jumeau. C'est mon frère jumeau qui a dit ça. J'ai aucun souvenir de ça.
Qu'est-ce qui t'était arrivé ?
Mais je ne sais
tu
pas.
Tu lis un de tes livres ? Tu racontes n'importe quoi ?
Je pense que quelqu'un m'a dit, si tu lis ça, on paye très très cher. Je ne sais pas.
Non, Bernard, pauvre fou. C'était c'est le cool. championnat académique d'orthographe en 94. La
Courté. Je me disais bien que le texte était ennuyeux, j'aurais pas pu écrire un truc comme ça. Je me suis compromis dans une dictée, t'as bien fait me le rappeler. Je
oui, une dictée. Tu verrais ton look quand on voit l'image, on pleure de rire. Quoi. Tu avais presque autant de cheveux que moi à l'époque, c'est te dire.
Ah ouais, je dois avoir des cheveux encore.
T'avais des cheveux.
Ça bon, gêne, hein.
Anissa.
Eh bien, je peux vous l'annoncer, Karl. Aujourd'hui, c'est la France d'en haut qui gagne. Victoire de Jean Lassalle.
Bravo. C'est mérité.
Désolé Bernard Werber.
C'est mérité. Je salue mon challenger qui a été en tout point remarquable.
Merci
et je
beaucoup.
Voterai pour lui en 2026.
Merci.
S'il se présente.
Attends, 2022 avant.
Ah 2022, ouais. mais il se présentera mais, aussi.
2022, je ne sais pas. Mais 2026, c'est.
Mais 2026, il n'y a pas d'élection. Donc
mais
tu
précisément,
pas voter pour
justement, je serai peut-être
est-ce que
le seul.
Je peux dire que compte tenu du fait que la France d'en haut n'a pas gagné depuis longtemps, ça me fait quand même un peu plaisir pour elle.
Bravo, tu es magnanime, Jean, et on t'applaudit pour cela.
Voilà. Ceci étant, je n'aurais jamais imaginé me trouver devant un écrivain aussi célèbre que Bernard Verdier. Et
Werber.
Comme un réverbère.
Tu n'écris pas très bien.
Oui, c'est vrai.
Non, soyons sérieux.
Oui, oui un
Bernard
peu quand même.
Werber, parce que je ne l'imaginais pas aussi simple, aussi oui. beau joueur et à vrai dire aussi talentueux.
Mais c'est vrai, oh, c'est vrai.
Merci.
Oh c'est vrai, je te rappelle, mon cher Jean, que tu gagnes un week-end de 5 jours dans la villa de mon ami Ziad Takieddine. Tu pourras profiter pour baigner ton grand corps dans sa piscine olympique chauffée, te détendre avec Pascal, ton épouse, dans son somptueux lit de 600 mètres carrés. Le tout payé par la Libye et noté 5 étoiles par Jean-François Copé sur TripAdvisor.
Et je vous rappelle, Karl, que Bernard Werber est là aussi pour deux livres, deux magnifiques livres. L'Encyclopédie du savoir relatif et absolu, paru chez Albin Michel. C'est un véritable cabinet de curiosités littéraires et mythologiques. C'est une encyclopédie entièrement illustrée de gravures rares. Et puis son roman, La boîte de Pandore, paru également chez Albin Michel.
Merci.
Et du côté de Jean Lassalle, il y a aussi un livre.
Non, il y en a six. Mais le meilleur, c'est peut-être...
Dans la Pléiade, les œuvres complètes de Jean Lassalle.
À la rencontre des Français, chez... comment ça s'appelle déjà Le Cherche-Midi.
Le Cherche-Midi.
Oui, Le Cherche-Midi.
Le Cherche-Midi à 14h même.
Mais ils n'y sont pas arrivés encore. Mais je dois dire que j'ai raconté mes 6000 kilomètres à pied pendant 9 mois.
Et, oui.
et où les Français m'avaient déjà dit ce qui nous attendait. Actuellement, le seul problème, c'est que personne n'a voulu me prendre au sérieux une fois de plus.
Ah, je croyais que personne n'avait voulu te prendre en stop, Jean.
Non, je ne faisais pas du stop, je n'avais pas le droit.
Ah, tu n'avais pas le droit.
Non, merci.
C'est vraiment terminé, ton avion t'attend. Ah, on applaudit très fort Jean Lassalle.
Bravo.
On applaudit Bernard Werber. Mes chers compatriotes, mes bien chers amis, mon cher Patrick.
Bonsoir, Karl.
Bonsoir. Mon cher père, ou tu préfères Alain ?
Alain, parce que tu n'es pas mon fils.
C'est pas ce que maman a dit. Eh oui, mes chers tontons, flingueurs, vous allez devoir répondre avec autant de sagacité que d'honnêteté à un nombre hallucinant de questions. toutes plus politico-sociétales les unes que les autres. Le gagnant de ce quiz en 6 manches repartira avec un cadeau mirifique. Mais d'abord, il vous faut choisir votre camp. Eh oui, car vous le savez, notre quiz citoyen a pour but, avant tout, de réduire la fracture sociale. Donc l'un d'entre vous va représenter la France d'en haut et l'autre la France d'en bas. Les prix, évidemment, ne sont pas les mêmes. Sinon, ça voudrait dire que l'égalité existe et faut pas déconner quand même. Et donc, l'abbé, tu es ?
La France d'en haut.
La France d'en haut, eh bien. On a fait une chance. Et ça veut dire que PPDA représentera les Gilets jaunes et la France d'en bas. Heureux, Patrick ?
Ah bah oui, mais il n'y a pas que les Gilets jaunes dans la France d'en bas. Il y a la France qui regarde la France d'en haut, et notamment la France qui est au ciel, c'est-à-dire l'abbé de la Morandée.
Bravo, voilà. tu nous mélanges un peu les pensées, mais c'est pas grave. Alors, puisque tu représentes la France d'en bas, je te rappelle que tu peux gagner moins 5% sur une sélection d'articles de mode chez Kiabi, qui habille entre autres Martine Aubry. Voilà qui te réjouit.
Oui, c'est sûr, mais ils ont ça pour hommes aussi
Ils ont pour hommes, oui, qui habillent, c'est hommes et femmes.
Ça me va, très bien.
Quant à toi, mon père, tu joues pour le prix France d'en haut. Un week-end de 12 heures dans la Sarthe avec Pénélope, l'épouse de François Fillon. L'île Maurice, nous n'avions pas en magasin. Anissa.
Patrick Poivre d'Arvor est avec nous, Carl, aujourd'hui parce qu'il y a un livre qui paraît chez Grasset, La vengeance du loup, des années de l'Algérie française au Palais National. La vengeance du loup va vous offrir une grande fresque qui nous fait pénétrer dans les arcanes du monde politico-médiatique français. Et ça, ça va vous plaire, Carl.
J'adore ça et je sais que Patrick, quand il parle du petit monde politico-médiatique, s'y connaît.
Je l'aime. Enfin, je l'aime. Je le regarde, je le contemple, j'en fais partie, hein, j'en ai fait partie en tout cas.
Tu en fais encore partie, Patrick.
Abondamment, mais je les vois fonctionner, notamment les hommes et les femmes de pouvoir. Et je trouve que c'est très romanesque. Il y a tout ce qu'on apprend dans les journaux, mais il y a tout ce qu'on ne sait pas. Notamment les coulisses, les alcôves et bien d'autres choses.
C'est
et
un
je
peu,
raconte tout ça dans
c'est
la vengeance
un peu à clé.
Du loup.
C'est un peu
oui,
à clé.
Il y en a quelques-uns. Bon,
on reconnaît.
On peut les reconnaître, mais en même temps, on se trompera forcément parce que certains ont pris les caractères des autres. Mais globalement, je peux vous dire que tout ce que
mais
je
comment
raconte...
Comment vous vous arrangez avec le secret professionnel?
Eh bien justement, c'est un roman. Donc à partir du moment où il y a roman, je peux habiller la vérité comme le faisait Aragon. Et je crois que je m'en sors
il
pas
est
mal.
Très en haut pour un en bas. Hein.
Le propre d'un tonton flingueur étant d'en avoir sous le capot. C'est votre cas à tous les deux, c'est-à-dire de posséder une biographie longue comme un jour sans pain. Je vous propose de retracer vos carrières en quelques points. Certains seront vrais, d'autres faux, car on ne se refait pas. C'est ce qu'on appelle la bio-quiz express. Chacun d'entre vous peut et doit même stopper sa bio quand il pense que c'est une fake news. Il lui suffit alors, c'est très facile, de lever la main. Vous avez chacun une main. Voici donc la vie de l'abbé racontée par Elise Moon, alias Ganesh.
Alors, l'abbé Alain Maillard de la Morandais est né le 29 9 1835 au Croisic.
Il lève la main, eh oui, erreur de fiche. Évidemment, l'abbé est né en 1385.
Ah, voilà, le futur abbé fait ses études secondaires aux Antilles et suit 28 mois de service militaire comme officier SAS en Algérie.
Alors SAS, c'est quoi? C'est comme dans Gérard de Villiers?
Section administrative spécialisée. C'est un remake des officiers des affaires indigènes que Lyautey avait inventé.
Pendant ton service militaire, certaines méthodes employées par les militaires vont te chagriner, l'abbé.
Plus que chagriner, révolter.
Raconte.
La torture. La torture détective. C'est-à-dire torturer un prisonnier pour obtenir le renseignement. Donc je me suis opposé très rapidement. J'avais 25 ans, donc j'étais abreuvé de menaces, de calomnies. C'est bien parce qu'à 25 ans, quand on reçoit tout dans la gueule, ça vous structure. Hein.
C'était le passage du feu de l'abbé de la Morandais. Mais c'était courageux à l'époque de dénoncer ça, surtout en y étant.
Oui. Et là, j'ai compris que je ne ferais pas carrière dans l'Église.
Et pourtant, tu l'as fait.
Non.
Tu veux dire que tu aurais pu être cardinal, voire pape?
Oh non, pape, ça va pas. Quand j'étais petit, je vais te faire une confidence, on m'appelait Papinou.
Papinou.
Et pourquoi?
Si tu veux, je t'appelle Papinou.
Pourquoi? Parce qu'on dit, qu'est-ce que tu veux faire plus tard?
Pape.
Je veux être pape. Et pourquoi? Parce que même maman m'obéira.
Wow. Ah, pas mal.
Merci l'abbé, on va passer maintenant à On nous cache tout, on nous dit rien concernant notre ami Patrick Poivre d'Arvor qui nous fait le plaisir d'être là. Et c'est Laurent Dutch alias Ganesh qui nous parle.
Bonjour à tous, PPDA publie à 17 ans son premier roman, Les Enfants de l'Aube, qui se vend à 1 700 000 exemplaires. À 18 ans, son deuxième roman, Deux Amants, se vend à 1 800 000 exemplaires. À 19 ans, son troisième roman, La Traversée du Miroir.
Stop. Alors, ça démarrait bien.
Oui.
Donc logiquement...
Son nouveau roman, La Vengeance du Loup, qui sort ce mercredi, devrait se vendre à plus de 7 millions, normalement, si on fait les calculs.
Alors, ça, on sait jamais.
Ganesh.
En 2007, PPDA fend l'armure et ose dire à Sarkozy qu'il a l'air excité comme un petit garçon au G7. C'était vrai, mais Sarkozy le prend mal.
Et c'est pour ça que tu es remplacé par Laurence Ferrari.
Et voilà, mais bon, on est toujours remplacé par quelqu'un. C'est la vie de ce milieu qui bouge beaucoup, ouais, oui, qui est assez tumultueux.
Hein. Un milieu de merde, on peut le dire.
Non. Un milieu étrange, un milieu qui suit comme ça.
Comme tu es poli, Patrick.
Bah, non, mais pourquoi est-ce qu'on a besoin de suivre le désir d'un président de la République quand on est patron d'une chaîne privée?
Moi, parce que c'est lui qui vous a nommé et qu'on écrase.
Une chaîne privée, non, normalement. Une chaîne publique, oui, mais une chaîne privée, non. Bon, tout ça reste pour moi un grand mystère.
Ça sera le mot de la fin pour cette première manche. Anissa, tu nous fais les comptes.
Eh bien, en toute mauvaise foi, car je peux vous dire qu'ils sont tous les deux à égalité. Nos tontons, aujourd'hui, ils sont très en forme puisqu'ils ont débusqué toutes les fake news de leur parcours un partout.
Ce sont vos deux jingles.
Ah, c'est mignon. Voilà.
Ah bah oui, TF1 et l'église. Ah, tu te souviens que tu as été à l'église autrefois. T'as pris ta retraite?
Il n'y a jamais de retraite chez nous. Je suis en dessous du gilet jaune. Je suis à 1000 euros par mois.
Eh bien, nous ferons une quête parmi le public qui sera généreux, je le sens.
Et bientôt le mouvement des soutanes blanches.
Une quête en billets uniquement, pas de pièces. Il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, a dit le Christ, l'abbé.
C'est la base de la laïcité.
Je vais donc vous demander de rendre au pape François ce qui vient de lui et de déterminer ce qui ne vient pas de lui. C'est le quiz « Le pape a dit ».
Le pape a dit.
Et c'était Eddie Mitchell. Tu as reconnu l'abbé. Et oui, le pape a dit ou il n'a pas dit. À vous de me le dire. Je vous donne donc des propositions et vous me dites « pape a dit » ou « papa a dit ». Bon, alors on arrête la musique, l'abbé a fait « Oh non, pas !»
Ça lui rappelle le boulot.
Les Martiens ont aussi le droit d'être baptisés.
Non. Papa dit. Papa dit. Dit.
Bande de guignols. Il l'a dit. C'était le 12 mai 2014 pour inciter les prêtres à ne pas mettre des obstacles au baptême.
Eh ben oui.
Les chrétiens ne doivent pas, l'abbé, fermer la porte à ceux qui frappent et refuser le baptême.
Ça, je suis bien d'accord. Anissa, j'aurais beaucoup d'exemples à donner de curés qui sont très maladroits et pas accueillants là-dessus.
Et Anissa me disait qu'elle voulait se faire baptiser et qu'elle avait trouvé la porte fermée.
Absolument. Oh.
Deuxième proposition. J'ai choisi le prénom de François car je veux être moi aussi un pape normal.
Oui, il a dit.
Et non, Patrick, il ne l'a pas dit.
Non, mais c'était...
C'est François Hollande. C'est François Hollande. C'est perdu. Je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes.
Oui.
A dit.
Eh ben non, il ne l'a pas dit. Vous êtes deux clowns. C'est Macron qui l'a dit en 2017 à Athènes, voyons. Attention, le confessionnal n'est pas une teinturerie.
Pas dit.
Oh, il l'a dit, alors, pour me démarquer.
Bravo, Patrick. C'est une citation du pape que tu ignorais, mais ben c'était en mars 2017 à la maison Sainte-Marthe que tu fréquentes régulièrement.
Et c'est là où,
mon
il,
cher
a,
abbé.
C'est là où il habite, d'ailleurs. C'est là où il dort.
Bien sûr. Et c'est là où il confesse ce qu'il demande. Mmh. Le pape François a dit à tous les prêtres, vous devez résister à la tentation des gilets jaunes.
Non, alors là, ça c'est du Carl Zéro pur.
Ok, le pape a dit, ma personne est sacrée.
Ça dépend du contexte, là encore.
Jean-Luc Mélenchon devant une porte fermée.
Il a de l'humour.
Bonne réponse de Patrick.
Ma personne est sacrée.
Saint-Pierre n'avait pas de compte en banque.
Oui, il l'a dit.
Bien, bonne réponse de l'abbé.
Bravo.
J'ai fait plusieurs boulots, notamment videur de boîte de nuit.
Non.
Eh ben si.
Oh.
Étudiant, il a fait ce petit boulot de videur de boîte de nuit.
Ah ben je savais pas.
Et quand il y avait des bagarres, il distribuait gratuitement des pains. Et à l'issue de ce quiz papal, Anissa nous révèle...
que nous sommes encore sur une égalité, car il y a 5 partout entre Patrick Poivre d'Arvor et l'abbé de la Morandée.
Alors, je me tourne vers l'abbé. Tu nous as dit tout à l'heure que tu avais donné l'extrême onction à Johnny Hallyday.
Oui, j'ai fait la connaissance de Laetitia il y a 2 ans maintenant. C'était un baptême chez Marc Lavoine. Oui. Et donc, elle m'a pris à part. Contrairement à ma réputation, je connais rien aux people.
Tu connaissais Johnny, quand même?
Oui, bon, c'est pas ma tarte de thé. Hein.
Ta tarte de thé?
Non. J'aime pas beaucoup les évadés fiscaux ni les idoles. Je suis contre les idoles.
Oui, enfin, c'était pas le vaudeur.
Désolé, désolé. Donc Laetitia m'a pris à part, elle m'a fait une confession de grande spiritualité. Elle m'a demandé de prier pour son mari, ce que j'ai fait tout l'été. Et puis le 5 décembre, il y a un an...
12 ans avant, elle te demande de prier pour son mari?
Oui.
Ah bah, elle voyait le coup venir.
Donc... Il ne faut pas être très grand médecin pour deviner qu'il n'en avait pas pour longtemps, quand même.
Bien, hein. Okay. Bon. OK.
Et donc, le 5 décembre, au matin, à 2h du matin, je reçois un coup de fil. Elle me dit, il faut venir demander l'extrême-onction à Johnny, voilà.
Et tu ne dormais pas, tu étais en boîte.
Non, tu te réveilles. Et aussitôt après mon passage, qui est venue, Brigitte Macron, qui a très bien organisé les choses.
Et elle t'a demandé de préparer aussi l'extrême-onction d'Emmanuel.
On n'en est pas là. On ne tire pas sur une ambulance, Karl.
Internet, c'est bien connu. Les médias, d'ailleurs, le répètent en permanence. Est devenu un déversoir arago conspirationniste. Avant, les agences de presse, les journalistes donnaient une info vérifiée qui était donc donnée par les agences. Mais maintenant, eh ben, ils sont réduits, Patrick, à trier des fake news sur les réseaux. C'est un autre métier, tu ne diras pas le contraire.
Non, c'est intéressant d'ailleurs, parce que ça veut dire que pour les jeunes journalistes, il y a du travail à faire, notamment dans les réseaux sociaux. Quand on dit que c'est un métier embouteillé, non, je pense que ce sera très intéressant qu'ils puissent confronter leur point de vue à des points de vue qui sont donnés comme ça, parfois ex nihilo, parfois ex cathedra, et en tout cas d'une manière aléatoire.
Alors concentrez-vous, car c'est le quiz du complot. Laquelle de ces allégations sulfureuses a-t-elle été relayée par la presse, lui donnant du même coup un certain crédit? On écoute les trois et on répond ensuite. La première allégation nous est racontée par Jean-Luc Mélenchon lui-même.
La profanation de l'Arc de Triomphe est l'œuvre des membres de la DGSI, surnommés les petits casseurs de Castaner, chargés par ce ministre de décrédibiliser le mouvement des Gilets jaunes aux yeux des Français.
Alors c'est pas c'est Mélenchon qui a dit ça,
oui, oui.
C'est Dupont-Aignan.
Et on va y revenir. Deuxième allégation. Stéphane Bern.
La profanation de l'Arc de Triomphe est l'œuvre du célèbre performeur Banksy, personnage mythique de la scène graffiti, illustre artiste revendicateur. Aucun fait social ne sait lui résister tant il est incisif et décoiffant dans son art. Il l'a prouvé en défigurant le buste en plâtre de la Marseillaise. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure voix pour lui, mais ça me fait marrer quand même.
Et la troisième allégation ne peut nous être contée que par Alain Soral.
Alors voilà, la profanation de l'Arc de Triomphe n'a pas eu lieu. Hein, c'est un grossier montage vidéo. Tout désigne comme auteur le FSB de Vladimir Poutine, hein, ça c'est vérifiable. Il aurait envoyé des espèces nazes, hein, déguisées en casseurs, déguisées en gilets jaunes, à la demande de Trump, hein, qui ne souhaitait pas, hein, que les Américains viennent claquer leur fric en France pendant les fêtes de fin d'année. C'est vérifiable, moi je le dis.
Patrick, je me tourne vers toi car tu n'as pas bien écouté. On a dit on répond à la fin, mais tu as répondu dès la première allégation. Raconte-nous ce qui s'est passé.
Non, en fait, c'est une phrase de Nicolas Dupont-Aignan qui a dit à un moment donné, qui a parlé des petits casseurs de Castaner, laissant entendre que toutes ces manifestations qu'on a connues pendant le mois de décembre ont été inspirées par le ministre de l'Intérieur, qui d'ailleurs a porté plainte, et donc l'affaire est pendante, comme on dit aujourd'hui dans les affaires de justice. Vous savez, on peut jeter beaucoup de choses comme ça en pâture, parce que au fond, qu'est-ce qui excite les gens? C'est quand justement il y a l'idée d'un complot. On ne vous dit pas tout. Les médias traditionnels, ils sont achetés par les uns, par les autres. En revanche, nous, petits personnages venus d'en bas, qui nous exprimons d'ailleurs d'une manière anonyme, assez souvent, sur
c'est
Twitter...
C'est pas le vrai PPDA, c'est un clone.
Ça, c'est beaucoup plus intéressant. Et ça a toujours marché, et ça marche de plus en plus.
Non, autrefois, ça marchait moins.
C'est pas nouveau.
Il n'y avait pas de réseaux sociaux.
La Révolution française, c'était le complot permanent. Ouais. Dans le peuple, à la cour, partout.
Non, tu veux dire que la Révolution française, puisque tu es monarchiste, était un complot.
Non, certains disaient qu'elle était un complot.
Non, mais elle était un complot.
Attends, moi, je suis monarchiste de cœur et républicain de raison. Oui, mais pas donc, tout à fait pareil.
De cœur, ça veut dire que tu penses bien qu'à un moment, il y a eu un complot.
Mais non, il y a des vrais complots et puis il y a des rumeurs de complots.
Alors, pour enchaîner et pour revenir au secours d'Alain Morandais, en effet, par exemple, on a prêté à Marie-Antoinette cette phrase de « ils n'ont pas de pain, qu'ils mangent la brioche ». Elle n'a jamais dit ça.
Jamais.
Et ça a été repris encore, il n'y a pas très longtemps, par la plupart de nos hommes politiques. Or, en fait, c'est une phrase qui est tirée de Jean-Jacques Rousseau 20 ans plus tôt dans un ouvrage qui n'a aucune espèce de rapport. Mais ça démarre vite une rumeur.
Donc, on ne peut pas situer l'entrée dans une ère du doute permanent à un moment.
Je pense que ça a toujours existé. Oui. Alors, évidemment, ça a commencé à prendre énormément d'importance
avec
au
Internet.
Moment... Oui, et puis surtout les Twin Towers. Quand des gens ont dit « mais non, c'est pas vrai, il n'y a pas eu d'avion, il n'y a pas eu de ceci, regardez, c'est pas possible, tout ça », eh bien, il y a plein de gens qui l'ont cru.
Est-ce qu'il y a des complotistes chrétiens ? Je pense aux protestants qui ont lancé une rumeur comme quoi la Vierge n'était pas Vierge.
Alors, par rapport aux protestants, je vais vous dire quelque chose de très simple. Lundi soir, je faisais un débat avec le grand rabbin Corsia au Cercle Monterland. Et Blandine Kregel était là, une spécialiste du XVIIIe siècle. Et elle me disait que précisément, les protestants étaient dans tout complot, entre guillemets, favorisant la révolution. Et ça date du XVe siècle.
Ah, donc
Clément Marot est protestant. Il y a une filière protestante qui est là contre l'absolutisme de l'Église et royale. Ce qui est assez logique dans la mentalité protestante. Ça remonte à très loin.
Donc, j'avais raison, finalement.
Oui.
C'est incroyable. Je pensais déconner, mais je me rends compte que les protestants étaient réellement
et
des complotistes. Eh ben,
les d'Orléans sont les
Je crois qu'il est temps d'arrêter cette partie. Dimanche 6 janvier, on a fêté l'Épiphanie. Vous-même, mon père, je sais que vous avez tiré les rois.
Oui, mon fils.
Et toi, Patrick, tu as eu la fève, je parie.
Le plus grand plaisir, c'est de donner une couronne à une reine. Voilà, c'est ça. Le plus
merveilleux, Patrick. Il sait y faire. Mais que savez-vous de cette tradition ? Car voici venu le temps du quiz Galette des Rois. C'est un petit QCM, c'est-à-dire, mon père, un questionnaire à choix multiple. Plusieurs réponses vont vous être proposées et vous me dites, selon vous, quelle est la bonne ? On y va. L'an dernier, qu'a découvert avec surprise une écolière de Saint-Malo dans la part de galette qu'elle partageait avec ses petites camarades de classe ?
Réponse A, un bigorneau.
Réponse B, de la frangipane faite à base de poudre d'algues.
Réponse C, une fève classée X.
Réponse D, une photo de Stéphane Bern qui, lorsqu'il ne vend pas de véranda, n'est jamais le dernier à tirer les rois.
Alors,
le bigorneau, c'est séduisant en tout cas.
Le bigorneau est séduisant, oui, Patrick. Ouais. Je te découvre. Eh bien non, c'était une fève classée X. La fève, représentant une position érotique, se trouvait dans une galette destinée à un club de rugby à l'origine. Et les deux galettes avaient été échangées à la boulangerie par une petite friponne. Et donc, la fève représentait un couple dans une position du Kama Sutra, en bas de la fesse, l'inscription missionnaire, ne laissait pas l'ombre d'un doute. Enfin, quoique, chez vous, mon père, ça aurait pu être un père blanc venu porter la parole. Mais que faisait-il dans cette position ? On ne saura pas. La question, c'est, un tel mercantilisme teinté d'érotomanie, est-ce acceptable ?
Je suis pas bégueule.
Je m'en étais rendu compte. Deuxième question. Pourquoi cette année encore n'y a-t-il pas eu de fèves dans la galette des rois de l'Élysée ?
Réponse A. Parce que c'est une tradition de Gaulois réfractaires au changement qui, comme les minima sociaux, coûte un pognon de dingue.
Réponse B. Parce que la République a hissé l'égalité comme vertu cardinale et qu'il faudrait en mettre une dans chaque part.
Réponse C. Pour que le président ne puisse pas être couronné même s'il en rêve.
Réponse D. Pour éviter qu'en tombant dessus, Macron ne devienne un sans-dents, ce qui aurait fait plaisir à Hollande.
Oh là 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 là. Aucune.
Comment aucune ? Si, il y en a une qui est bonne.
Il y en a une qui est bonne ?
Ben bien sûr.
Oui.
C'est pour que le président ne puisse pas être couronné. Parce qu'il s'agit d'un héritage de la Révolution qui tenta de remplacer, à une certaine époque, l'épiphanie par une fête des sans-culottes, tu t'en souviens certainement.
Ouais.
Et la galette des rois par la galette de l'égalité. En clair, en République, le roi n'a plus sa place ni sur le trône.
Mais l'égalité est une fiction.
Oui, mais ça, on en parlera hors antenne.
Il faudrait parler
Il ne faut pas le dire aux auditeurs.
Équité, c'est pas la même chose.
Équité, égalité, tu as raison, mais ça n'est pas non plus une émission 100% philo.
Je comprends. Ça, on s'en était aperçu, hein.
Et pourtant, Patrick, depuis le début, on sent chez Macron une attirance pour le décorum, la morgue prêtée à l'ancien régime, n'est-ce pas ?
Alors, je ne dirais pas forcément la morgue, mais en tout cas, les habits du pouvoir. Ça, c'est incontestable. Ça a été dès son intronisation.
Incroyable ! Le Louvre !
On l'a vu au Louvre.
T'as vu le Louvre ?
Le Louvre qui a d'abord été la résidence des rois, hein, avant d'être un beau musée. Donc, on sait que ça, ça lui plaît. Ce côté jupitérien qui, alors, souvenez-vous, à ce moment-là, avait été salué par toute la presse. La presse dont il est bien connu, qu'elle lèche, ensuite qu'elle lâche, et puis après qu'elle lynche. Hein, ça, c'est une chose que nous connaissons dans nos milieux. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, tout le monde disait « Ah, ça y est, on a retrouvé la pompe. »
C'était De Gaulle et Mitterrand.
Ça nous manquait, oui.
Mais
oui, c'est drôle. Et puis après, on a dit « Bah non, c'est trop. »
Beaucoup plus facile. Comment appelle-t-on un collectionneur de fèves ?
Réponse A, un fabophile.
Réponse B, un favophile.
Réponse C, un épiphanophile.
Réponse D, un Dominique Strauss-Kahn, grand amateur de fèves, mais aussi de figues et de petits abricots.
Merci Anissa.
Entre le A et le B, j'imagine.
Ouais. Fabophile ou favophile ?
B.
B, un favophile. Eh bien non, mon père, c'est un fabophile. À noter, parmi les fabophiles les plus célèbres, on compte le regretté Jean Lefèvre. Fève Adams. Et également Fève Ruggieri. Message personnel, Pascal Atenza vient d'être viré pour avoir écrit ces vannes de merde. Anissa, qui a gagné cette manche ?
Il n'y a pas eu de point de marqué, donc c'est toujours Patrick Poivre d'Arvor qui mène 6-5 face à la baie de la Morandée.
Alors, une petite question pour la baie. Pourquoi est-ce que dans les municipalités ou à l'Élysée, ils tirent la galette des rois alors qu'on n'a pas le droit de faire de crèches dans ces mêmes endroits ? Est-ce qu'il n'y a pas deux poids, deux mesures ? Il me semblait que depuis la séparation de l'Église et de l'État...
Alors, il y a une réponse très simple qui pourrait être faite pour les crèches. Il suffirait de mettre un rabbin et un imam et le tour est joué.
Tu veux dire autour entre le bœuf et l'âne, il y aurait aussi le rabbin, les moutons, tout ça.
J'ai proposé ça
à Cassel Bajac. Un agnostique aussi, ce serait compliqué.
Un agnostique qui serait représenté par toi, Patrick ?
Non, Luc Ferry. Non,
tu reviens vers le... Vers,
ça me dit, j'aimerais croire. Voilà.
Ça te titille.
J'aimerais croire.
Quiz décalé et bonne humeur jusqu'à 18h sur Europe 1. On retrouve Carl Zéro et ses tontons flingueurs. Ils sont venus jouer avec l'info cette semaine, PPDA et l'abbé de la Morandée.
Vous l'avez sans doute remarqué, preuve de votre sagacité légendaire et sans faille, un nouveau ton horripilant a envahi un peu plus chaque jour nos antennes. Ganesh.
Vous l'avez sans doute remarqué, preuve de votre sagacité sans faille, un ton nouveau et horripilant envahit chaque jour un peu plus les antennes, surtout depuis l'arrivée des chaînes d'infos en continu.
D'où sort ce ton de merde, Patrick ? On leur apprend ça à l'école. Imagine l'abbé si c'était pareil à la messe.
Il prit le pain et le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. »
Le résultat, c'est qu'on ne sait plus ce qui est vrai ou ce qui est faux parce qu'on n'écoute plus que cette musique des mots qui semble totalement dénuée de sens, non ?
Alors c'est très intéressant parce qu'en effet, au départ, il me semble... Je ne voudrais pas incriminer qui que ce soit, mais je pense que c'était dans les émissions de M6 type Capital.
Capital. Ça, voilà.
C'est là qu'ils ont inventé un ton bon, qui était propre à cette émission.
Et il est enseigné aujourd'hui.
Et alors non seulement ça, mais
il est
par
partout.
Capillarité, il s'est répandu partout. Et alors le plus terrible, et Gamesh nous l'a très bien fait sentir, c'est qu'on... On coupe une phrase au milieu. On est en train de raconter quelque chose, puis au milieu de la phrase, on se tait, et puis on continue. Ça n'a aucun sens. Les gens ne parlent pas du tout comme ça.
Alors, vrai ou fausse info, voici le quiz BFM TV, qu'on pourrait appeler le quiz M6 aussi. À vous de me dire si c'est une vraie ou une fausse info, mais c'est le même ton. Info numéro 1.
Alors qu'il assistait au Davos du désert, malgré de nombreuses annulations d'autres participants protestants contre l'assassinat de Jamal Khashoggi, Patrick Pouyanné, PDG de Total, a pris tout le monde à contre-courant. Il a ainsi accepté un cadeau de bienvenue, un porte-clés réalisé avec les doigts du journaliste assassiné, remis par MSB, le prince héritier lui-même.
L'abbé fait non de la tête. Patrick
de tout mon corps, non.
Non, de tout ton corps.
Mais on y croit pourtant.
Je l'espère.
On y croit pourtant.
Eh ben ouais, info numéro 2.
Abdelaziz Bouteflika, le président algérien, dont la candidature à sa propre succession pour un cinquième mandat se confirme, pour abriguer deux nouveaux mandats consécutifs grâce à une carte de fidélité. En effet, selon la constitution algérienne, au cinquième mandat, le sixième est offert. Questionné à ce sujet, le président algérien n'a pas répondu, étant personnellement dans le coma depuis maintenant 8 ans.
Mais le rire, le sourire, parce que c'est très bien raconté. Mais non, ça n'existe pas. Mais il est vrai qu'il souhaite se présenter pour un cinquième mandat, alors qu'on ne l'a pratiquement pas vu depuis 3 ans, en effet, en public.
Et ça, c'est encore plus ridicule que ce ton BFM TV.
C'est inquiétant, en tout cas.
Inquiétant. Mais qu'est-ce qu'on peut dire aux jeunes, aux étudiants, à ceux qui rêvent de devenir journalistes? Est-ce qu'ils doivent fuir cette voie ou pas?
Je pense qu'il faut qu'il y ait... Chacun ait sa singularité.
Sa propre voix.
Il y avait la voix Carl Zéro.
La voix Patrick.
Bon, chacun a sa voix. Il ne faut pas que tout le monde s'imite et se copie.
Mais alors, plus grave, comment leur éviter aux journalistes de se faire péter la gueule dès qu'ils sortent avec une caméra? Parce que c'est quand même la mode maintenant.
Là, c'est vraiment scandaleux. Et en plus, c'est parfaitement dégueulasse. Parce que ces chaînes d'information en continu ont beaucoup aidé le mouvement des Gilets jaunes, ne serait-ce qu'en parlant en permanence. Donc, pourquoi se retourner contre eux alors que, justement, ils ont servi un peu de tremplin? Non, et puis, de toute façon, quoi qu'on pense de ce que dit un journaliste, voilà, on est obligé, c'est la liberté de la presse. Chacun a le droit de s'exprimer, mais on n'a pas le droit de s'exprimer avec les poings.
Mon père, tu as fondé Radio Notre-Dame.
J'ai cofondé.
Oui, comment on faisait les infos sur Radio Notre-Dame? Il y en a d'ailleurs?
À l'époque, il n'y en avait pas.
Et maintenant, il y en a?
Actuellement, j'écoute pas.
Bon, alors, père, alors si vous savez, vous appelez le 3921, personne ne sait. S'il y a des infos, non, parce que je me disais peut-être qu'il les choisissait comme ci, comme ça, si elles étaient dans un sens christique ou pas christique, non?
Non, à l'époque, moi, j'avais 2 émissions par semaine. Je faisais le chancel de la station et donc j'invitais BHL, Dormesson, qui je voulais, quoi. Ouais. Né Girard, c'était passionnant pour ça.
Europe 1. Des tontons flingueurs, Carl Zéro, de l'actu, des jeux et de la bonne humeur. C'est votre programme, même le week-end, sur Europe 1, à partir de 16h. Depuis 17h, l'abbé de la Morandée et Patrick Poivre d'Arvor s'amusent avec l'info. On retrouve Carl Zéro et ses tontons flingueurs pour quelques minutes encore.
Alors avant de se quitter, on va ressortir les vieux dossiers pour le quiz de la première fois. Et donc la première fois, Patrick, ça se passe pour toi le 26 février 72.
Qu'est-ce qui s'est passé le 26 février 72 pour
Mais tu as été dépucelé, voyons. mais non, pas du tout, on écoute.
Entre deux morceaux de musique, un reportage sur les techniques modernes de transport.
Changer de résidence, c'est-à-dire déménagement plus fréquent, soit parce que la famille s'agrandit, soit parce que le lieu de travail a changé, soit parce que soi-même, on a tout simplement envie de changer. Monsieur Moreau, vous êtes un spécialiste. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que 3 déménagements valent toujours un incendie?
Non, 3 déménagements ne valent plus un incendie.
Qu'est-ce que c'est que cette question de merde, Patrick?
Je ne sais pas où je suis allé la
c'est
chercher.
C'est quoi ce jeu,
mais
déjà?
C'est bien moi.
Et c'est toi.
C'est bien moi. Et c'était Albert Reissner, je me souviens, qui était un personnage important. Voilà. Et on m'avait demandé de faire une petite... Voilà, je travaillais à la radio à ce moment-là. C'était pas Europe 1, mais c'était bien aussi.
Ah oui, mais on te voit là. C'est...
Ah
on
oui,
l'a chopé
là,
sur l'INA.
C'était la première fois que
t'es à la télé.
J'apparaissais à la télévision pour faire un petit truc de pas grand-chose. Quoi. Et j'avais fait un petit reportage. Et
transport, j'ai... déménagement.
Oui, oui.
C'est un sujet passionnant.
Oui, mais enfin, en même temps, je me suis aperçu que plus tard, ça m'a servi. À chaque fois que j'étais viré d'une, il fallait bien qu'il y ait des cartons et tout ça.
Alors du coup, il y a eu un incendie ou pas finalement?
Il n'y a pas eu d'accord, pas encore.
On va continuer maintenant avec notre ami l'abbé. Est-ce que tu te souviens de ce jour de novembre 87? C'était sur Feu la 5.
Il y en a tellement eu que...
Chaque jour, Alzheimer fait de nouveaux dégâts. L'abbé, reprends-toi. Tu étais face à ce nervi. L'abbé de la Guérie, l'abbé de la Guérie.
Ça, je m'en souviens, oui, très bien.
Saint-Nicolas du Chardonnay,
oui.
À l'époque.
Alors, j'ai une tactique dans ces cas-là pour déstabiliser avant de rentrer sur le plateau. Il me tend la main. Ça s'appelait duel, l'émission.
Duel sur la 5.
Oui, duel sur la 5. Il me tend la main. Je dis, monsieur, vous ne connaissez pas les traditions. On ne se tend jamais la main avant un duel.
Bien joué. On écoute.
Je voudrais d'abord rappeler qu'il y a 55 millions de Français. Sur 55 millions de Français, il y a 45 millions de baptisés. Il y a 15% de pratiquants réguliers, soit 5 à 6 millions de pratiquants réguliers. Il y a 36 000 prêtres en France.
Combien avez-vous de personnes à votre grand-messe du dimanche ?
C'est facile à vérifier. Il y avait des caméramans de la 5e chaîne dimanche dernier. Voilà. Nous sommes un millier chaque dimanche.
Alors c'est fou, sur un c'est petit, fou. Sur vous un étiez petit 150, 200 à la messe.
Ah, il était chafouin, Laguéry. Il dit que t'avais que 150 pèlerins au lieu de 1000. Tu peux dire la vérité maintenant. Tu en avais 1000 ou 150 ?
1000.
Non, tu en avais 200.
Le doute
non,
subsiste.
Non, mais à l'époque, lui, il remplissait Saint-Nicolas du Chardonnay.
Mais attends, moi, j'ai toujours rempli les églises qu'on m'a données. Elles étaient vides, hein.
Non, quand tu arrivais, c'était vide
quand je suis arrivé. Et ouais. Au bout de 3 ans, c'était plein.
C'était plein.
Dans le 14e Notre-Dame du Travail, c'était vide.
Mais
c'était
ouais, tu faisais le boulot, tu faisais le show. Mais que sont devenus les intégristes catholiques ?
Oh, ils se portent très bien. Hein.
Ah, il y en a encore ? Non, il y en a encore ?
Mais bien sûr qu'il y en a. Au moment d'une radicalisation de l'islam, il y a forcément une augmentation de la radicalisation des intégristes catholiques.
Bah, ils ne font pas d'attentats encore.
Non, c'est pas leur genre. Mais avec une certaine Marion Le Pen, on peut s'attendre à beaucoup de choses.
Ah, c'était un message politique de l'abbé de la Morandais, très habile, très bien placé. Alors on va faire maintenant le bilan de l'émission. Je me tourne vers Anissa. Anissa.
Eh bien, après toutes ces manches et tous ces points, c'est Patrick Poivre d'Arvor qui remporte la partie aujourd'hui. Merci Anissa.
Et je ne me souviens plus du tout s'il représentait la France d'en haut ou la France d'en bas.
La France d'en bas.
L'en bas, la France
Et donc,
d'en bas.
Il remporte moins 5% sur une sélection d'articles chez Qui habille, qui habille, Martine Aubry. Patrick Poivre d'Arvor, qu'on retrouve dans son nouveau roman La Vengeance du Loup, qui sort mercredi. Alors, ça fait penser au grand feuilleton du 19e siècle, Patrick.
Ouais, c'est l'histoire d'un petit garçon qui veut devenir président de la République.
Ça c'est Macron.
Quand il a 12 ans, il perd sa mère et son monde s'écroule. Et après, il a cette ambition et qui va le mener, alors vous verrez bien où, jusqu'au bout, il faut lire le livre évidemment, et qu'il va rencontrer ce milieu dont on a beaucoup parlé tout au long de cette émission, ouais. Hein, des politiques, des journalistes, et puis des intrigues, et puis des amours. Voilà, en effet, j'aime beaucoup ces feuilletons à la Alexandre Dumas et tous les feuilletonistes du 19e qui allaient apporter leur copie le soir dans les journaux, et puis le lendemain, tout le monde s'en dégustait, et l'écrivain ne savait même pas ce qu'allait être la suite, et il le faisait.
Merci Patrick, merci l'abbé de la Morandais, vous êtes formidables tous les deux, je vous aime d'amour.
Tous les week-ends de 16h à 18h sur Europe 1, vous écoutez Carl Zéro et ses tontons flingueurs. Carl revient demain, dimanche, à 16h.